C'est une belle visite que nous avons aujourd'hui à travers vous, Guillaume François Salin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui va sortir d'ici quelques semaines, quelques mois même.
Quelques mois, oui.
L'année prochaine, en 2026. Vous êtes fait cette réflexion, le nombre de baptisés adultes augmente chaque année. C'est réjouissant, hein, vous le dites, mais vont-ils persévérer dans la foi? C'est la question que vous posez dans ce livre, et on va partir un peu à la découverte de cet ouvrage, donc on a dit qu'il sortira donc l'année prochaine. Vous êtes vous-même catéchumène, c'est-à-dire que vous n'avez pas été élevé du côté de la foi ou de la religion catholique.
Voilà, tout à fait. Moi, j'ai grandi dans une famille non chrétienne. J'ai pas eu de pratique de la foi dans ma famille. J'ai pas eu d'éducation chrétienne. Voilà, j'ai grandi comme un athée. Et en fait, la foi, ça a été vraiment une découverte personnelle, vraiment personnelle. Et du coup, je me suis converti vers mes 16, 17 ans, on va dire 16 ans. Et puis la conversion vraiment profonde a eu lieu à 17 ans. Et là où vraiment il y a eu la bascule, ça a été à Lourdes, j'avais à peu près 18 ans. Et mon baptême a eu lieu il y a à peu près 9 ans, j'avais 21 ans, après un an de préparation à Bordeaux auprès des Dominicains. Et suite à ça, je ne suis jamais sorti. J'ai eu un grand zèle pour évangéliser. Et parfois on comprend mal l'évangélisation, on peut voir ça comme je veux convaincre les autres. Et comme dit Bernadette à Lourdes, j'ai beaucoup aimé cette phrase, je ne suis pas chargé de vous faire croire mais de vous témoigner. En fait moi j'avais envie de témoigner de ce trésor en fait. Parce que quand on vit quelque chose de merveilleux, un trésor, et qu'on souhaite le bien aux autres, et qu'on considère, qu'on croit du plus profond de son être, que ce qu'on a vécu c'est la plus belle chose au monde et qu'il n'y a pas mieux sur terre, bon, on n'a qu'une envie, c'est de partager.
C'est de le dire.
Exactement.
Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, ici on en parle avec passion et on a vraiment envie de le partager, son bonheur, le partager avec le plus grand nombre.
Exactement.
C'est un peu, puisqu'il y a votre épouse qui est à côté de vous, c'est aussi une histoire d'amour entre vous et Dieu.
Avec mon épouse ou
Les deux. Enfin, est-ce qu'on peut mettre un parallèle entre...
Ah carrément. Moi, je considère que Dieu m'a tout donné. Il m'a donné même mon épouse, parce qu'on s'est rencontrés à l'église. Et en fait, j'ai vraiment fait, dans l'évangile de Matthieu, ça a été l'évangile de notre mariage, Jésus dit « Cherchez son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît ». J'ai fait le pari dans ma vie de tout donner à Dieu. Alors, je ne suis pas consacré, hein, je ne suis pas prêtre, mais vraiment dans ma vie, il était le centre de tout. Et il m'a vraiment tout donné, mon orientation professionnelle, plus tard, la rencontre de mon épouse, mes amitiés.
Et vous avez l'impression que plus vous avancez dans la vie, plus il vous met dans votre chemin, sur votre route, des choses que vous avez besoin.
C'est comme si, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui vient d'Augustin par rapport à son livre « La cité de Dieu ». Et il a cette métaphore qu'il n'a pas inventée, hein, mais qu'il a développée, la cité de Dieu. Nous sommes tous en chemin vers la cité céleste. Et avec cette image, nous sommes tous des pèlerins ici-bas. Mais certains, en fait, ne sont pas encore pèlerins. Ils sont plutôt errants, vagabonds. Et moi, je me considérais comme un vagabond de l'existence parce que je n'avais pas la foi, je ne savais pas quoi faire ici-bas. Et très jeune, j'avais compris avec lucidité et non pessimisme. Pour moi, c'était de la lucidité. À 15 ans, j'avais compris que, en fait, tout ce qu'on faisait ici-bas allait finir un jour. Que rien n'était éternel ici-bas. Et du coup, j'avais la réflexion, mais vraiment pas comme un adolescent révolté, mais vraiment profonde de me dire, mais pourquoi je vais me donner pour des choses? De toute façon, tout va finir. Je vais aimer quelqu'un, la personne va disparaître. Je vais me donner dans un travail, mais un jour, je ne pourrai plus l'exercer. Tout va disparaître un jour, pourquoi? Et c'est là où, quand je suis tombé sur l'évangile de Matthieu et de Jean, notamment Jean qui dit au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et plus loin, il dit « Quiconque croit en moi ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. » Et à ce moment-là, j'ai compris que si la vie ne se conclut pas la mort, tout ça a un sens et donc tout ce qu'on fait ici-bas n'est pas vain. Il y a une espérance. Et pour aller encore plus loin, je me suis dit, mais du coup, Jésus, c'est des belles phrases, mais on va mourir quand même. Hein. Il y a la mort est là, on peut dire ce qu'on veut. Et du fait de sa résurrection, c'est le seul homme sur terre, du moins celui qu'on témoigne aussi vigoureusement, qui a vaincu la mort et qui est venu le témoigner. Donc qui a fait un témoignage que la mort n'a pas le dernier mot. Et qui du coup nous ouvre une vraie espérance. Parce que dans toutes les autres spiritualités, on nous parle de ce que Nietzsche appelle des arrière-mondes. Et moi, je pensais pareil avant d'être chrétien, je me disais, mais
c'est quoi l'arrière-monde ?
Un arrière-monde, en fait, c'était la critique de Nietzsche envers les religions, et une critique très intéressante et qui, je pense, est vraie en partie. Il disait, mais en fait, c'est facile les religions, on vous dit souffre ici-bas, galère, mais tout ira mieux après, dans un monde arrière. Et donc, en fait, on met toutes ces justifications dans cet arrière-monde qu'on ne voit pas, et du coup, on peut tout justifier. Et je pense qu'il y a une part de vrai, même des fois en tant que chrétien, on peut tomber là-dedans, dans cette facilité de dire oh, « mais t'inquiète pas, tout ira après, souffre » et vous voyez, ça peut être une excuse. Mais je pense que cette critique, fondamentalement, ne s'applique pas au christianisme, parce que nous, ce n'est pas qu'un arrière-monde, c'est aussi le Christ qui est ressuscité ici et qui a témoigné, qui l'a montré, qui apparaît encore aujourd'hui. Et on est à Lourdes, la Vierge Marie est apparue, elle est censée être morte il y a 2000 ans, et elle apparaît encore, il y a encore des gens qui la voient, il y a encore des gens qui sentent sa présence. Moi j'ai des amis qui sont, avec mon épouse, on a des amis qui sont musulmans, j'ai déjà rencontré des bouddhistes, etc. Je n'entends jamais dans leurs témoignages, j'ai senti la présence de cette personne vivante. Autre, ils peuvent dire j'ai senti une présence de Dieu, ça il n'y a pas de souci, hein, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Mais il n'y a jamais ce j'ai senti telle personne vivante face à moi, qui me montre qu'il y a quelque chose après la mort, quoi. C'est beaucoup porté à après. Bah, du coup, je prie, je me comporte bien, et après, j'irai au paradis. Vous voyez que nous, ça va plus loin que ça, ça ne s'arrête pas à juste « après, on ira au paradis ». Le paradis commence dès maintenant.
Vous enseignez, puisque vous êtes adjoint pastoral scolaire, donc vous enseignez ce qu'on appelait anciennement le catéchisme.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes aussi psychopraticien.
Psychopraticien, oui.
Voilà, depuis 5 ans. Lorsque vous rencontrez des gens qui souffrent, c'est compliqué pour vous de dire qu'il y a un Dieu qui nous aime et qu'il y a un paradis, mais que pour l'instant, eh ben, il faut malheureusement souffrir. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui avez à la fois cette foi chevillée au corps,
ouais,
et la souffrance d'une personne qui est devant vous, qui est réelle, qui comprend pas quand on lui parle d'un Dieu d'amour et dans la situation où il est, il voit pas l'amour?
Ouais, moi je suis.
Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous.
Ah, merci de cette question, c'est une très belle question. Moi c'est ce qui m'a animé pendant longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, je crois que la Bible est le seul livre religieux qui m'a donné une réponse satisfaisante. Mais je tiens à préciser, face à la souffrance de quelqu'un, je ne lui dirai pas ce que je vous dis là. Je vais me taire, je vais l'écouter. Je prierai peut-être intérieurement pour lui, sûrement d'ailleurs, et je serai une présence. Et je lui montrerai que je suis là avec lui. Et des fois, ça peut toucher de voir qu'une personne qui a la foi ne vacille pas intérieurement. Extérieurement, on peut pleurer, on peut être vraiment triste, mais quand il y a une ossature, qu'on est vraiment ancré en Dieu, qu'on a une espérance ferme, en fait, les personnes, peut-être pas tout le temps, mais le sentent. Moi, j'ai accompagné les personnes en fin de vie. J'ai été dans l'aumônerie catholique à un institut qui s'appelle Bergognier sur Bordeaux, et je l'ai fait juste après ma conversion, parce que moi la question c'était le sujet de la mort, de la souffrance, de la maladie. Ça a été vraiment moi, d'où le fait qu'après la psychothérapie, hein, vous voyez le lien, et je me suis confronté à ça. Je me suis dit mais maintenant là il faut être capable de témoigner, d'être une présence même aux gens, face aux gens les plus désespérés. Et donc déjà moi c'est le silence d'abord. Il faut être humble face à la souffrance des autres que l'on ne vit pas. Déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé vraiment la réponse la plus profonde dans le christianisme. Parce que dans toutes les religions, on peut accuser Dieu. Et je pense que c'est justifié. Mais oui, tu dis que tu es un Dieu bon, mais toi, tu es là-haut dans le ciel. Et tu dis qu'un jour, on ira mieux, qu'il faut bien se comporter pour être sauvé. Mais moi, je n'ai pas demandé à être créé. Donc en fait, c'est facile. Toi, tu es derrière tes nuages. Entre parenthèses, c'est une image, hein.
Bien sûr.
Vous voyez, et moi, cette critique-là, avant le christianisme, pour moi, était très justifiée, en fait, parce que c'est inconciliable pour moi. C'est-à-dire, comment un Dieu qui se dit bon peut laisser sa créature souffrir et lui dire « comporte-toi bien et après tu seras sauvé ». Et c'est là où, pour moi, le Christ est la clé de voûte. D'ailleurs, le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, dit « le Christ est la clé, le centre de toutes les histoires humaines ». Il est la clé qui explique tout, qui éclaire les choses. Et donc, Quelle est la réponse? La croix. C'est pour ça qu'on a des croix partout. C'est pas parce qu'on est... quelqu'un qui a vraiment vécu, c'est quelqu'un qui a connu la souffrance. Il sait un moment qu'il a perdu des proches, il a connu la maladie, la détresse. La vie n'est pas que ça, mais il y a ça. Il y a le tragique au sens de nos existences. Et du coup, la croix est la réponse ultime. C'est un Dieu qui a accepté de souffrir avec nous et qui nous dira à l'heure de notre mort, « Aucune de tes souffrances ne m'est étrangère. » Sur la croix, de manière mystique, j'ai vécu toutes les souffrances passées, présentes, futures. Je les ai toutes assumées. Donc chaque souffrance, je les ai souffert avec toi. Et là, ça change tout. Parce que c'est un Dieu qui est avec sa création. Et du coup, on ne peut pas accuser Dieu d'être c'est un espèce de génie qui est au-dessus de nous, qui nous surplombe. Il est venu avec nous, il a accepté de se faire torturer, de se faire humilier. Lui qui est le créateur, qui pourrait nous détruire en fait, qui est plus fort que nous. Finalement, comme un père qui accepte d'aller changer les couches de son enfant, qui se met à son niveau, tout bas. Et c'est pas humiliant, c'est sa gloire. C'est sa gloire de père. Et c'est là où moi, là, quand j'ai compris ça, et je l'ai vécu après dans la prière, que toutes mes souffrances, le Christ, vraiment, c'est pas symbolique. Il les vit avec nous. Et donc, je dirais pas ça à quelqu'un qui souffre. Parce que comme l'Ancien Testament le montre dans le livre de Job, d'abord, il faut laisser crier Job. Il faut laisser Job s'exprimer. Et après, Dieu lui répond à la fin, quand il a pu parler. Déjà, on écoute. Après, on peut témoigner humblement. Voilà, moi, c'est mon témoignage. Et après, peut-être en dernier lieu, une fois qu'on a écouté la personne, qu'on lui a témoigné quelque chose, lui dire « Est-ce que tu veux prier ?» Et moi, je suis convaincu, je l'ai vécu avec toutes les personnes qui ont ouvert leur cœur, la prière permet de tout surmonter. Tout. Tout. Sans exception. Mais par contre, voilà, c'est un choix personnel. Personne ne peut vous forcer à prier. Voilà.
Mais vous pouvez l'accompagner, lui proposer.
Voilà, c'est ça.
Votre travail. Ça. On va bien sûr parler de votre livre, puisque le temps passe.
Oui.
Juste deux mots sur cette conversion à Lourdes. Oui. Vous êtes dans l'adolescence, vous sortez de l'adolescence, jeune adulte, à l'heure où on pense à plein d'autres choses. Et là, vous avez une conversion. Vous venez à Lourdes, qu'est-ce qui se passe à Lourdes?
Alors, je vais essayer de le résumer parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça a été un sacré cheminement. En fait, moi, j'ai vraiment, pour vous dire, j'ai commencé à lire Baudelaire. Baudelaire a été la première initiation au sacré, la première curiosité envers le spirituel, le sacré. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas, à travers la poésie, à travers le beau. Après, je suis tombé sur Jean-Jacques Rousseau. Après, la philosophie. Et après, j'ai entendu parler qu'il y avait des religions. Et par la philosophie. Donc après, j'ai commencé à lire les religions et un jour, je suis tombé sur l'évangile de Matthieu et là, j'ai eu ma première expérience. Et en fait, dans ma vie, j'ai pas le temps d'en parler là, mais j'ai pas fait que des choses bien. Je me suis pas toujours bien comporté. Donc j'avais, après avoir vécu cette expérience, un souhait de me racheter et d'aider les autres, de me tourner vers le bien. Et donc, j'ai entendu parler, parce que je parlais tout le temps de Jésus, mais tout seul dans mon coin, en fait. Et quand je croisais des catholiques... dans le milieu associatif, parce que j'allais m'engager dans le milieu associatif, je voyais beaucoup de catholiques et du coup ils se disaient mais ce jeune homme il est un peu zélé quoi, il est un peu fou, il parle tout le temps de Jésus, j'en parlais tout le temps vraiment, je suis tombé fou amoureux de lui, moi je le dis, et du coup elle me disait va parler avec un prêtre, réaction classique, je suis allé parler avec le prêtre, j'étais d'accord avec lui sur rien, absolument rien, vous voyez l'adolescence,
ouais.
Voilà, juste pour montrer, non, c'est mon christianisme, c'est moi qui a raison.
C'est ma façon de le voir.
Voilà, ouais. C'est ça, exactement.
C'est ma religion.
Et vous savez quoi, il a été génial, il a fait la meilleure réaction d'un prêtre, vraiment un prêtre saint, il est resté silencieux, il ne me contredisait pas, il disait de temps en temps, voilà, l'église croit ça, mais il était très calme, il me disait, ah mais tu devrais aller à Lourdes t'occuper de personnes handicapées. Je pense que ça te plairait, parce que je lui parlais en même temps de ma soif d'aider les autres. Et je lui disais, ah mais les catholiques, ils aident les autres. Parce que moi, j'ai l'impression que les catholiques, c'était un peu les croyants un peu mous. Moi, j'ai vraiment une mauvaise image. Hein. Et du coup, je suis allé à Lourdes et là, waouh, révélation, j'étais avec l'hospitalité landaise. Et waouh, là j'ai... D'ailleurs, à l'époque, on m'avait demandé d'écrire un article à mon retour. Et waouh, là j'étais bouleversé. J'ai été bouleversé de voir... J'ai jamais vu ça dans la société civile. Cet amour envers les pauvres, de donner tout son temps, cette chaleur, cette ambiance. Il n'y a que ceux qui sont venus à Lourdes en tant qu'hospitaliers, pas juste de passage, qui peuvent comprendre ce que je dis et qui comprennent que là, il y a quelque chose qui est supra-humain, quoi. Et donc, je vais à Lourdes. Et donc, pour faire court, il s'est passé plein de choses. Mais à un moment, moi, je ne voulais pas me baigner dans les eaux de Lourdes parce que je ne reconnaissais pas la Vierge Marie. Je lisais la Bible seule et du coup, j'étais un peu dans un esprit protestant. Sans me dire protestant, hein, c'est juste ma lecture seule. Et donc, il y a une personne retardée mentale qui du coup, me dit « tu peux venir te baigner dans les eaux de Lourdes avec moi ». Je lui dis non. Et il veut que je l'accompagne. Je lui dis non aussi. Et il me dit avec son regard... émouvant, mais tu peux juste m'accompagner. Je me dis non, mais là je suis un monstre si je l'accompagne pas juste, quoi. Et je m'entendais bien avec lui, donc je l'accompagne. Je lui dis par contre, je t'attends devant. Et on était devant, il priait devant. Vous voyez, il y a des bancs en face des piscines.
La tente, oui.
Voilà. Tente, oui. Et du coup, il avait une profondeur. Je voyais qu'il se passait quelque chose. Et après, il me dit, tu peux m'accompagner devant les piscines. Je dis ok, mais je reste devant. Et au bout d'un moment, il me dit. Tu vas te baigner quand même. Et en fait, il avait travaillé mon cœur tout le long. Et là, je lui dis, bon, ok, je vais me baigner. Et à l'époque, c'était l'immersion complète. Je crois que ça revient.
Oui, ça revient.
Mais waouh. Et là, en fait, bon, vous me croyez pas. C'est mon expérience. Hein, mais en fait, vous voyez, l'immersion complète, je pense que vous connaissez, ça dure une seconde, quoi.
Oui.
On n'a pas le temps d'imaginer quelque chose. C'est impossible. Enfin, pas une histoire, quoi. Et donc, il y a eu l'immersion. Et écoutez, je suis comme sorti de mon corps. J'étais comme dans un autre monde. C'était, il y avait pas de couleur, hein. C'était noir, mais pas un noir oppressant. Et j'avais un sentiment de paix absolue. Du coup, j'avais au-dessus de moi Jésus, la Vierge Marie. Et la première chose que je leur dis, c'était, ce qui était étonnant, c'est que je savais où j'étais. C'était intuitif. Et la première chose que je leur dis, c'est, j'en ai marre de la vie, je veux mourir. Emporte-moi, ce monde est trop moche, il est trop horrible. Et du coup, il me répond intérieurement comme une évidence, non. Et du coup, je n'en suis pas triste et je lui réponds, bah écoute, je te donnerai toute ma vie. Et vous voyez ce que je vous dis là, c'était hors du temps, j'ai l'impression que ça a duré, je dirais pas des heures, mais longtemps quoi. Et du coup, j'ai fini là-dessus en disant, je te donnerai toute ma vie. Et du coup, je suis sorti de ça. Et je peux pas vous raconter dans le détail le reste, mais après, ça ne m'a jamais quitté, en gros. Et après, ça a pris 3-4 ans pour me faire baptiser, 3 ans, je crois. Et puis voilà, le cheminement jusqu'à ce livre.
Jusqu'à ce livre dont on va parler, puisque le titre, c'est « Dieu nous parle à travers les catéchumènes ». Vous posez cette question, effectivement, où il y a cette excitation du début, on est catéchumène, on vient d'être baptisé, on rentre dans l'église. Et après,
et oui.
Les semaines passent, les mois passent. Est-ce que cette ferveur reste? C'est la question que vous posez à travers ce livre.
En fait, si vous voulez... je remarquais que, oui, il y avait de plus en plus de catéchumènes, mais que beaucoup ne perduraient pas dans la foi. C'est ce qu'on appelle la difficulté d'intégrer les néophytes, donc les jeunes convertis dans la foi, la difficulté de les intégrer à la paroisse, à la communauté, et de les aider à persévérer. Donc ce livre, c'est un peu une analyse de pourquoi il y a un renouveau du catéchuménat, pourquoi, en même temps, c'est si difficile de tenir dans la foi et qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, dans la première partie, c'est un peu un état des lieux, comprendre le contexte pour saisir la psychologie des catéchumènes. Et la deuxième partie, c'est vraiment des propositions qui me viennent de ma propre expérience et de mes réflexions. Comme après, moi, je me suis engagé pendant 6 ans en tant que responsable du catéchuménat de ma paroisse. On a commencé avec 5 catéchumènes, on a fini, là, ils sont plus de 100. Vraiment une explosion. J'ai commencé avec 4-5 baptêmes et après, sur ma fin de service, il y avait 20 à 21 baptêmes. Donc vous voyez vraiment, j'ai vu l'évolution.
Ouais.
Et c'est grâce à tout ce qu'on a mis en place aussi. Voilà. Et du coup, ce livre propose un peu tout ça. Montre aussi les obstacles à la conversion et au fait de perdurer dans la foi. Et ce qui est important de retenir, je pense, c'est que c'est une mission qui engage toute l'Église, qui ne peut pas être le ressort de quelques spécialistes et de quelques zélés. Ça ne marchera pas si tous les chrétiens ne s'engagent pas. Si vous voulez, dans les premiers siècles de l'Église, quand il y a eu les conversions un peu de masse au christianisme dans l'Empire romain, le catéchuménat a commencé, ils ont développé des choses pour bien accompagner. Et il y avait, notamment, ils avaient développé quelque chose de très beau, qui était un espèce d'ancien dans la foi, qui accompagnait le catéchumène de son entrée jusqu'à la fin, qui devenait souvent son parrain et sa marraine. Donc c'était un peu celui qui venait l'intégrer dans la communauté. Et ça, c'est une intuition vraiment profonde qu'on a mis en place dans notre paroisse, qui s'appelle des aînés dans la foi ou des témoins de la foi, qui vont venir accompagner. Et donc vraiment, la clé, c'est l'accompagnement. En fait, Dieu nous a voulu en collectif, Il a créé l'Église pour qu'on soit voilà, en groupe, pour qu'on soit son corps. Et donc, il faut que tout le monde s'implique. Et donc, tout le monde doit s'impliquer à intégrer les catéchumènes à la communauté. Il ne faut pas juste donner le sacrement avec une vision un peu magique. C'est bon, il a le sacrement, il a des super pouvoirs, tout va bien se passer. Il faut l'aider à déployer la grâce qui est en lui. Et pour ça, il y a besoin des autres. Et c'est le but du livre.
Et c'est le but du livre qu'on aura bien sûr l'occasion de retrouver. On rappelle le titre, « Dieu nous parle à travers les catéchumènes ». C'est un livre qui sortira donc courant 2026.
Voilà, c'est
comment
ça.
On pourra se le procurer?
Du coup, mon éditeur, c'est les éditions du CERF. Et du coup, ce livre sera à présent voilà, chez l'éditeur, en librairie, mais aussi sur toutes les plateformes. Voilà, je n'ai pas encore la date exacte, donc ça viendra prochainement. Et vous m'entendrez aussi parce qu'un autre éditeur va publier d'autres livres. C'est le même sujet, mais sous un format différent. Ce sont des petits livres qui sont des lettres adressées directement aux catéchumènes. Donc là, c'est un format plus à la première personne où moi, je m'adresse à eux comme un ancien qui vient parler au nouveau et le conseiller.
Et qui les conseille.
Voilà, aux éditions de l'Emmanuel. Ce sera aussi l'année prochaine.
Merci beaucoup, Guillaume-François Salin, d'être passé jusqu'à nos studios. Vous étiez venu déjà nous visiter avec un groupe d'élèves qui étaient venus donc ici sur Lourdes. Vous êtes là à l'occasion de la fête de l'Assomption, le pèlerinage national. On vous souhaite un bon séjour. Merci. Et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver à travers un autre format, une autre émission sur Radio Présence. Très bon vent à vous et puis bon succès pour votre livre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.